Paul de Garros, Le petit chevalet, Mémoire d'un agent de police. Chapitre 1. L'évocation ne se discute pas. Si quelques-unes sont forcées, il y a des abus de pouvoir sous toutes les latitudes sociales, d'autres sont véritablement irrésistibles. On est ingénieur, mécanicien, poète, tout aussi bien que prêtre, soldat, marchand de parapluies ou fabricant de chocolat. Certains grammairiens pointilleux ont bien prétendu qu'on naissait homme de génie et qu'on devenait homme de talent, qu'on naissait littérateur, peintre ou sculpteur et qu'on devenait membre de l'Institut. Sans doute, parbleu, de même qu'il ne suffit pas d'être venu au monde dans la peau d'un homme d'affaires pour être à l'abri de la faillite ou pour devoir forcément y aboutir. En sorte que la distinction de ces messieurs entre le naître et le devenir, loin d'être profonde, n'est qu'apparente. Tout est soumis à la même immuable fatalité. Chut, les gens qui croient devoir à leur mérite personnel les honneurs dont ils sont accablés vont m'arracher les yeux. Parfaitement, et on pourrait très bien démontrer que cette fatalité... Non, raisonner sur des abstractions est toujours une fatigue. J'aime mieux prendre tout de suite un exemple, c'est moi, et dire que je suis né et devenu agent de police. Tant pis pour les grammairiens. J'ajoute, afin de rendre un complet hommage à la vérité, seule et bien légère compensation à la monotonie des mémoires, que comme dans tous les cas de vocations exceptionnelles et inattendues, le destin, avant de me conduire au but, ne me ménagea pas les traverses. Mon père, riche commerçant du Pré-Saint-Gervais, m'avait voué dans sa sagesse à une carrière libérale. À 10 ans déjà, muni de quelques connaissances élémentaires, je commençais donc à suivre comme demi-pensionnaire les cours du lycée Janson de Sailly. Cela m'obligeait tous les jours à une longue course, et afin de me préserver de tout vagabondage le long des rues si séduisantes de la capitale, un employé de la maison était chargé, les premiers temps du moins, de m'accompagner. Malgré le dérangement dont j'étais ainsi l'occasion, mon père s'était imposé ce sacrifice parce que Janson était considéré comme un des meilleurs établissements pour les études classiques et l'excellent homme ne savait rien épargner quand il s'agissait de mon avenir. Pauvre père! Oui, c'est de là pourtant, je veux dire de mes fréquentes pérégrinations à travers Paris, que date le développement de mon goût, inné certainement, pour la profession de gardien de la paix. La vue seule de ces fiers défenseurs de l'ordre, à l'allure si martiale et si digne, me faisait déjà, à cette époque, battre le cœur. Quand j'en voyais un traverser la rue, je m'arrêtais sur le trottoir, je le regardais longuement avec une admiration respectueuse, mêlée d'un peu d'envie. D'autres fois, si le hasard nous mettait brusquement nez à nez au détour d'une rue, mon émotion était si vive que je m'effaçais pour le laisser passer, pâle, tremblant, à faire réellement supposer aux âmes naïves et vulgaires que je n'avais pas la conscience tranquille. L'été, je ne me lassais pas de contempler l'énorme et non moins élégant pantalon de coutil blanc sur lequel la tunique flottait avec des plis si coquets. L'hiver, les grandes bottes, si bien appropriées aux circonstances, me semblaient encore plus décoratives, plus majestueuses. Et quand, par hasard, pour une raison de théâtre ou une autre, rentrant le soir au Pré-Saint-Gervais, il m'arrivait de rencontrer ces vaillants protecteurs de la morale et de la sécurité publique, défilant deux par deux dans le brouillard, le capuchon relevé, chuchotant mystérieusement. Mon enthousiasme était à son comble. Poursuivant mes classes, j'en arrivais bientôt à étudier l'histoire contemporaine, et j'appris alors à mieux connaître encore le rôle si élevé rempli par la police dans toutes les circonstances difficiles de notre vie politique. Les journées de juin 1848, le coup d'État, la Commune. Partout, obéissance aveugle au pouvoir, abnégation généreuse. J'étais ébloui, et, comme ces dames oiseaux du Moyen-Âge, qui au récit des exploits des chevaliers et leurs aînés revêtaient l'armure à 15 ans, je brûlais, moi aussi, de me consacrer à la sainte cause de défenseur de l'ordre. Cependant, je l'avoue, ce désir était vague, et avant de passer à l'exécution, bien que je n'en eusse jamais envisagé les difficultés, j'aurais sans doute hésité. Ah, combien dans notre société dégénérée, de hautes et généreuses aspirations sont ainsi étouffées par le prosaïsme de la civilisation. En attendant, et sans rien dire de mes préférences, je travaillais consciencieusement. Mon père était enchanté et voyait dans mes succès présents un gage de succès plus sérieux pour l'avenir. À 18 ans, j'avais mes 2 baccalauréats. Peu après, j'entrais comme interne à Saint-Louis pour me préparer à l'école polytechnique. Ce fut au cours de ces études préparatoires qu'un événement dont le hasard me rendit témoin vint m'indiquer clairement ma vocation. Un certain dimanche soir, revenant du Pré Saint-Gervais, je suivais en flânant les boulevards avant de regagner Saint-Louis, lorsque, à la hauteur de la rue Gravemont, un rassemblement compact m'arrêta. C'était un brouhaha indescriptible au milieu duquel on distinguait vaguement des cris d'enthousiasme, des vociférations, des injures, et la voix grave des représentants de la force publique qui essayaient de disperser par la persuasion l'attroupement sans cesse grossissant. On était au soir de cette élection fameuse qui révolutionna Paris et la France et dont les suites faillirent rajouter une page de plus aux annales du césarisme. Déplorable aventure qui commença par une mutinerie, se continua par de mesquines intrigues et finit misérablement sur une tombe sans avoir réalisé une seule de ses promesses. Mais ce nom appartient à l'histoire politique de mon pays et je me suis promis de n'aborder dans ces modestes mémoires aucune question brûlante. Je reviens au rassemblement qui m'avait barré la route. Après quelques minutes d'efforts impuissants, les agents avaient dû dégainer et sous cette menace, la foule houleuse s'était écoulée. Toutefois, au milieu de la bagarre, quelques arrestations avaient été opérées. Des victimes innocentes, comme toujours, et quel ne fut pas mon étonnement en reconnaissant parmi ceux que la police conduisait au poste un de mes meilleurs amis. Lui aussi m'avait aperçu. Il me fit signe d'approcher et me pria de l'accompagner jusque chez le commissaire, où je pourrais aider, sans doute, à le faire relâcher. Ce fut long, très long. Monsieur le commissaire avait beaucoup de besogne ce jour-là. Enfin, après 2 heures d'attente, j'eus la joie de voir mon intervention couronnée de succès et mon ami libre. Au fond, je le confesse à ma honte, je n'avais aucun regret du fâcheux accident arrivé à mon camarade, par cela seul que j'avais, grâce à cette occasion, fait connaissance avec les différents rouages d'un commissariat de police, et surtout, faveur inappréciable, avec cette note éminemment grotesque qu'on nomme un rapport. Non, vous dire quel fou rire s'empara de moi lorsque j'ai lu ce rapport, rédigé par le brigadier de service, serait impossible. C'était un galimatia, un méli-mélo de phrases amphigouriques, et niaise à faire tordre une momie. Eh bien, qui le croira ? Ce petit drame dont j'avais été acteur et témoin, et les circonstances qui l'avaient accompagné, achevèrent de m'éclairer sur ma vocation. Rien désormais ne devait plus en arrêter l'irrésistible impulsion. Je rentrais à Saint-Louis avec 2 heures de retard, et encore ne dus-je pas la faveur de coucher dans mon lit qu'à la protection toute spéciale du concierge, qui tenait à se ménager ma bienveillance. Cela ne m'empêcha pas, le lendemain, et malgré toutes mes explications, de me voir infliger 2 privations de sortie. Oh, les criantes injustices d'une règle aveugle! Mais j'étais philosophe et cuirassé contre ces infortunes si fréquentes au collège. Le temps de ma retenue, je le consacrais non pas à travailler, mais à ruminer les aperçus nouveaux que je possédais maintenant sur la carrière où tendaient mes ambitions. Jusqu'alors, je n'avais envisagé l'existence du gardien de la paix qu'à deux points de vue. Valeur presque téméraire à déployer dans certaines circonstances périlleuses, parade en grandes bottes ou en pantalon blanc, lorsque l'humeur paisible des Parisiens leur laisse des loisirs. À partir de ce jour, je commençais à entrevoir les petites difficultés, les petits écueils dont la vie de ces braves gens est semée, et à côté desquels le reste n'est rien. Rédiger un rapport, quelquefois un long rapport, n'est-il rien de plus terrible, de plus déconcertant pour un malheureux que son intelligence mal dégrossie, une instruction à peine ébauchée et non pas préparée à ce rôle? Cette difficulté explique jusqu'à un certain point pourquoi, malgré la progression constante en France des infractions aux lois, le nombre des arrestations tend plutôt à diminuer. Ces réflexions douloureuses m'amenèrent à reconnaître la nécessité d'une amélioration sérieuse à faire dans cette voie. Et j'avais ainsi trouvé du même coup le levier qui devait lever tous les obstacles s'opposant à mon entrée dans la police. Rien de plus simple, en effet. Lorsque le moment serait venu de découvrir mes projets d'avenir à mon père, celui-ci allégrait certainement, entre autres motifs de refus, le développement de mon instruction qui m'ouvrait toutes les plus brillantes carrières. Moi-même, après avoir usé tant de fonds de culotte sur les bancs de Janson de Sailly et de Saint-Louis, n'hésiterais-je pas à perdre le bénéfice de 10 ans de travail pour me consacrer à une tâche glorieuse mais infime? Maintenant, cette objection n'existait plus, ou se trouvait du moins facile à réfuter. Je dirais: mon père, oui, j'ai songé, comme vous, que les diplômes dont je suis, grâce à vous, doté, auraient pu me permettre de plus hautes ambitions, mais en présence de l'insuffisance d'instruction notoire constatée parmi les gardiens de la paix, instruction sans laquelle les hommes les plus braves ne seront jamais des hommes d'action, prompts et énergiques, ce qui est pourtant une nécessité de leur métier, je crois devoir solliciter mon admission dans ce corps d'élite. Il faut à tout prix relever le niveau de ces nobles victimes du devoir, trop rabaissés jusqu'à présent. Certainement, mon père, devant cette fière attitude, ne pourrait que s'incliner. Hélas, il ne s'inclina pas du tout. Et bien mieux, au premier mot que je prononçai sur ce sujet, il menaça tout simplement de me faire interner dans une maison de fous. L'injure me piqua au vif et je me révoltai sous l'outrage. Je n'avais que 19 ans, c'est vrai, mais enfin, je ne voulais pas être traité comme un gamin. En peu de temps, la situation entre mon père et moi se tendit de façon à devenir insupportable. Et comme la loi ne laisse aux mineurs en rupture d'autorité paternelle que deux alternatives, se jeter dans la Seine ou se faire soldat, je choisis bientôt la seconde. Pour le moment, ça ferait toujours enrager mon père après mes 5 ans de caserne. Nous verrions. Chapitre 2. Prosper le rat, c'est moi, monsieur. Suivez-moi. Je fus introduit dans une pièce assez vaste, meublée de chaises de paille, tendue de papier vert, au milieu de laquelle un jeune homme, à la physionomie fine et bienveillante, était assis devant une grande table, bureau dont le cuir fauve disparaissait sous les taches d'encre. J'étais en face du secrétaire particulier de monsieur le commissaire. Un homme de lettres, sans doute. Aujourd'hui, c'est la mode. Nos écrivains, dits documentaires, commencent par servir la police avant de la blaguer, et tout en grattant du papier pour elle, réunissent, dans la procession de petits scandales qui défilent sous leurs yeux chaque jour, les renseignements qu'ils utiliseront plus tard. Même, ce stage ayant réussi à quelques-uns actuellement en pleine vogue, Un de mes anciens condisciples de Saint-Louis, que la tarentule littéraire vient de piquer, se propose, avant de songer à débuter, de briguer ce poste plus honorifique que lucratif. Mais passons. Donc le jeune homme m'accueillit avec beaucoup d'aménité, et m'ayant fait asseoir, me dit avec douceur « C'est bien vous, mon ami, qui vous nommez Prosper de Rat ?»« Oui, monsieur. » « Bon, monsieur le commissaire, étant absent, m'a chargé de vous communiquer la réponse que monsieur le préfet de police a bien voulu faire à votre demande. D'admission parmi les gardiens de la paix. Cette réponse est favorable. » Je ne pus réprimer un mouvement de joie. Tout en parlant, monsieur le secrétaire fouillait des paperasses à la recherche d'un dossier qu'il ne parvenait pas à découvrir. « Il y a longtemps que vous avez terminé votre service militaire ?» continua-t-il sans me regarder. « 6 mois, monsieur. Et vous avez été aussitôt brigué d'honneur d'appartenir à la police. Sans perdre un seul jour, monsieur, je nourrissais ce projet depuis plusieurs années. « Ah, mais où donc avez-vous servi ? J'ai vu cela, je ne me souviens plus. » « Au 22e dragon, monsieur. » Brigadier au bout de 6 mois, maréchal des logis au bout de 18. Pas un jour de consigne. J'aurais rengagé si je n'avais pas eu mon autre idée. Mais avec d'aussi bonnes notes, vous auriez pu chercher à entrer dans les gardes de Paris. C'est plus décoratif et plus agréable. Le service est moins dur. Je fis un geste de dénégation qui contenait une légère intention de mépris. « Mieux encore, » poursuivit le secrétaire en feuilletant mon dossier, enfin retrouvé. « Vous avez de l'instruction, bachelier S-lettres et bachelier S-sciences. Vous auriez pu, étant maréchal des logis, entrer à Saumur, devenir un officier brillant. « Non, » ajouta-t-il en me voyant faire un nouveau geste de détachement dédaigneux. « Ça ne vous convenait pas. La capote du sergent de ville, alors ?» Toujours la capote. Vous trouvez cela plus séduisant que le dolman du dragon? J'avais une vague intuition que cet aimable jeune homme se moquait un peu de moi. Mais, faisant contre force fortune bon cœur, je répondis avec gravité que telle était en effet ma manière de voir et que rien au monde ne m'en ferait démordre. Étrange, étrange, murmura à deux reprises mon interlocuteur. Il esquissa un petit sourire énigmatique qui voulait en dire long, et dont je crois pouvoir faire le signe d'un scepticisme railleur, blasé à force d'en heurter sur les 1000 bizarreries de l'esprit humain. « Allons, monsieur, bien, mon ami, reprit-il. Puisque vous avez le feu sacré, vous serez, je l'espère, un agent modèle. Je vous souhaite de voir bientôt les distinctions méritées et récompenser votre zèle. » Après ce mot bienveillant, qui était une manière de me congédier, je compris que je n'avais plus qu'à me retirer. Je le fis avec l'aisance modeste d'un conquérant satisfait, en y mettant la nuance de respect que tout soldat doit à son chef. Positivement, je nageais dans le bleu. Et si à tout ce bonheur je sentais encore une lacune, c'était de ne pouvoir plus rien désirer maintenant, car tous mes vœux étaient comblés. Désormais, je n'avais plus qu'à consacrer ma vie à me montrer digne de l'insigne faveur que le ciel m'accordait. Le soir même, j'étais irrévocablement brouillé avec mon père. Chapitre 3. Première journée. J'ai été nommé gardien de la paix dans le premier arrondissement. Et pour mes débuts, bien pénétré des instructions de mes chefs, j'ai été chargé de veiller à l'ordre public dans le quartier du Louvre. Il fait un froid humide et une boue noire rend les pavés glissants. J'ai chaussé les grandes bottes d'ordonnance et je fais les 100 pas sur le quai avec toute la gravité que m'impose ma nouvelle qualité. Quelle est douce cette réalisation du rêve de toute une vie! En passant devant le guichet du carrousel, que les omnibus et les fiacres encombrent maintenant, je revois, dans une évocation troublante et mystérieuse, cette foule de gentilshommes séduisants des batailleurs dont les pourpoints aux chatoyantes couleurs sillonnaient seuls jadis, au beau temps des équipées amoureuses, la cour du sombre palais. Peut-être n'est-ce qu'une réminiscence de la chronique du règne de Charles IX que j'ai relue récemment, car j'ai un faible pour Prosper Mérimée, ce parfait ciseleur qui mériterait d'être classique si les romans... Bon, mais revenons à la réalité. Calme et digne, je longe en lorgnant les passants, les longues galeries encombrées de tableaux, où du haut de leur cadre, les fauteurs de la tyrannie nous contemplent. Malgré moi, je frémis d'horreur au souvenir de phrases sonores lues autrefois dans nos précis d'histoire sur ce repère de l'absolutisme. Et après 3 siècles, les arquebusades du bon roi Charles soulèvent encore mon indignation. Triste époque où l'injustice régnait. Comme contraste, en face de la superbe demeure des rois, sur les marches du pont des Arts, un pauvre infortuné, demi-mendiant, demi-ouvrier, essaie d'attirer l'attention de la foule en lui offrant d'une voix enrouée un porte-photographie de sa confection. C'est un petit chevalet en bois blanc, badigeonné de brou de noix pour imiter le vieux chêne, semblable quant à la forme à ce dont on se sert dans les ateliers. Les prix varient de 10 à 30 centimes, suivant les dimensions, qui sont minuscules. Depuis plus de 2 heures, le malheureux, grelottant sous ses vêtements en lambeaux, battant de la semelle contre le tablier du pont, crie de sa voix monotone comme à la cantonade « Le petit chevalet, 10 centimes !»« Le petit chevalet, 10 centimes !» J'ai remarqué qu'il ne parlait jamais de ceux de 4 et 6 sous, sans doute pour ne pas effrayer la clientèle. Malgré cela, bien peu répondent à son appel. Je suis sûr qu'il n'encaissera pas 50 centimes dans toute la journée, si cela continue. Voilà un camelot qui ne rentre pas dans la catégorie des camelots ordinaires. C'est un grand vieillard, la barbe grisonnante, aux yeux très doux. Il y a dans ses gestes un air de noble simplicité qui m'intéresse, m'impose presque le respect et surtout m'intrigue puissamment. Qui sait? C'est peut-être quelque grand seigneur déchu. Ça se voit tous les jours, ces choses-là. À la fin, à force de passer et repasser devant lui, et de le voir implorer toujours en vain la charité des passants, j'ai pitié de sa détresse. Je m'approche, et pour ne pas compromettre l'uniforme que je porte, je lui glisse à la dérobée une pièce blanche. Après tout, je peux bien me permettre cette libéralité. Mon traitement n'est pas mon seul moyen d'existence. Je jouis de plus en toute propriété d'une 40 000 francs, la dot de ma pauvre mère, que mon père m'a remis le jour de ma majorité. Le vieillard, à la vue de cette pièce, m'a regardé avec étonnement. Mes collègues, sans nul doute, ne l'ont pas habitué à semblable aubaine. Puis il l'a prise et l'a glissée dans sa poche en me remerciant. J'avoue que j'étais un peu désappointé. Après l'idée que je m'étais faite de ce singulier mendiant, je pensais que mon offrande révolterait sa fierté et qu'il refuserait. Oh non, pas que je l'ai faite avec ce secret espoir. Non, 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 mais enfin... Tout de même, ce ne doit pas être un grand seigneur déchu. Les grands seigneurs, je les connais, j'en ai fréquenté à Saint-Louis. Ont d'autres manières. À moins que... Car la faim fait passer par-dessus bien des scrupules. 2e journée. Mon service ne commençant qu'à midi, j'ai employé la matinée à installer l'appartement que j'ai loué rue des Prêtres Saint-Germain-l'Auxerrois. Il est sombre, la rue est si étroite. Mais les pièces sont hautes et spacieuses, comme on les faisait partout au grand siècle. J'ai antichambre, cuisine, salle à manger, un cabinet de travail... qui me servira de salon. Je crois pouvoir affirmer que bien peu de mes collègues sont aussi luxueusement logés. Je n'en suis pas plus fier pour cela, étant de ceux que la fortune n'a jamais grisé. Jusqu'à présent, j'ai pris mes repas au restaurant, mais je me demande si je ne vais pas bientôt me mettre en quête d'une servante. Manger chez soi est 1 000 fois plus agréable. En somme, j'ai plus de 4 000 francs de rente, je peux m'offrir cette fantaisie. À l'heure réglementaire, j'ai repris ma promenade de long en large, attentif à étouffer le moindre cri séditieux, à réprimer la plus légère velléité de meurtre. Mais parmi tous ces promeneurs qui flânent ou se rendent à leurs affaires, je n'ai pas découvert la plus petite trace d'anarchiste ou d'assassin. Déplorable! Pas même une innocente noyade qui m'eût permis de dissiper un attroupement. Pour tuer le temps, je me suis mis à errer devant les éventaires des bouquinistes, dont l'attrait pour moi est toujours irrésistible. Vieille habitude de collégien. J'ai acheté pour rien 10 centimes le volume Une énorme histoire de France par Anquetil. Ce sera un bon noyau pour ma bibliothèque naissante. Vers 4 heures, l'homme au petit chevalet est arrivé. Il a déballé sa marchandise sur les marches du Pont des Arts et a recommencé, comme la veille, à débiter son boniment. Il m'a reconnu quand je suis passé et a levé son chapeau avec un sourire de remerciement, afin de ne pas encourager une familiarité qui eût pu dans l'avenir devenir compromettante, j'ai répondu par un petit salut de protection. Cela a dû faire sur ce malheureux une impression salutaire et lui donner une haute idée de ma personnalité. Troisième journée. Très monotone, pas un procès-verbal adressé, pas une admonestation à donner, pas même un renseignement à fournir. Un scrupule m'a pris. Je me suis demandé si cette absence d'occupation ne venait pas de moi, de ma trop grande mansuétude ou de mon inhabileté à saisir les occasions. Et pour dissiper le trouble de ma conscience, j'ai consulté un de mes confrères. Il m'a répondu que c'était généralement ainsi, à moins d'être féroce ou pointilleux, et de voir un crime capital dans l'acte le plus innocent. Ainsi, certains agents, me confia-t-il, trouve parfaitement moyen de faire tomber sous le coup des lois la manière dont un monsieur regarde la Seine ou sort d'une Vespasienne. Mais cela, ajouta-t-il, s'ils sont encouragés en apparence par des chefs, au fond ne sont estimés de personne et les camarades les regardent toujours d'un mauvais œil. Cette explication rendit la paix à mon âme, un instant émue. Quatrième journée. Toujours calme plat. En passant sur le quai, j'ai acheté un roman de Gensu qui faisait depuis longtemps l'objet de mes convoitises. Et tout en promenant mes regards vigilants sur le champ habituel de mes observations, je parcours les aventures extraordinaires d'un prince devenu mendiant, puis parvenu de là, après 1 000 traverses, à recouvrer ses prérogatives et sa haute situation. Voilà, autant qu'on en peut juger à première vue, un livre joliment tapé et qui vaut la peine d'être lu une seconde fois sérieusement. J'étais encore sous l'impression de cette lecture saisissante lorsque tout à coup j'entends crier à côté de moi: Le petit chevalet, 10 centimes! Le petit chevalet, 10 centimes! Je ressautai de surprise et j'éprouvai une sensation indéfinissable que je ne saurais qu'imparfaitement analyser. Le sort de cette voix, la coïncidence de cette rencontre au moment où j'avais encore l'esprit peuplé des visions abracadabrantes du grand romancier, le rapprochement qu'on pouvait très bien établir entre le héros du roman et ce vieillard plutôt mendiant que marchand, dont l'attitude m'avait semblé déjà contrastée étrangement avec le métier, tout cela m'avait fait, malgré moi, courir un léger frisson dans les veines. Mais, me rappelant aussitôt que l'ombre même d'une défaillance est incompatible avec ma profession, Qu'est-ce que vous faites là? Dis-je au vieillard avec une dureté tout à fait en dehors de mon caractère, un peu peut-être pour me venger de mon émotion. Le bonhomme, ainsi brusquement interpellé, sortit de ses poches, ses mains amaigries, bleuies par le froid, et soulevant humblement son chapeau. J'essaie de gagner quelques sous, monsieur, dit-il. Vous avez l'autorisation? Quelle autorisation? L'autorisation de vendre sur la voie publique. Il fit un geste de désespoir. Non. Eh bien, il faut déguerpir au plus vite alors, ajoutai-je en enflant la voix. Il me regarda tristement avec des larmes dans les yeux. Aussitôt, sans attendre sa réponse ni l'effet de mes injonctions, je m'empressai de tourner les talons et je m'éloignai en grognant pour me donner le change. Au fond, j'étais furieux contre moi. Que le mendiant ait obéi ou non, que je l'ai privé ou non de gagner sa vie, je venais d'agir envers un pauvre infortuné, peut-être chargé de famille, avec une brutalité impardonnable. Si j'avais pas craint de me déconsidérer par cet illogisme, je serais revenu sur mes pas et j'aurais cherché à atténuer la mauvaise impression laissée par mes paroles. Une sotte pudeur me retint, et ma faction terminée, je rentrai chez moi, poursuivi par un véritable remords. Je crois avoir dit déjà, je l'ai indiqué du moins par le genre de mes occupations, qu'outre ma passion pour l'uniforme de la police, je nourrissais un culte profond à l'égard des belles-lettres. Jadis, au collège, je les avais cultivés avec goût et même, j'ose le rappeler ici, sans fausse modestie, avec un certain succès. Or, non seulement mes souvenirs classiques n'étaient pas éteints, mais j'aimais encore à leur donner de temps à autre une nouvelle intensité, en jetant un coup d'œil rapide sur les immortels chefs-d'œuvre de l'art grec ou romain qui avaient bercé mon adolescence. Ce soir-là, ma main tomba par hasard sur les Catilinaires, une traduction bien entendu. Le latin, en effet, ne m'a jamais semblé plus pur et plus noble que sous les admirables formes françaises dont savent le revêtir ces messieurs de l'université. Je lus en entier, sans m'endormir, la magnifique diatribe de Cicéron, et après cette lecture, je me sentis plus ferme et mieux trempé pour accepter les obligations de la tâche ingrate à laquelle j'avais voulu me consacrer. Quel grand homme que ce Cicéron! Et combien devait être facile le devoir et l'honnêteté lorsqu'on l'avait entendu tourner contre l'homme puissant qui projetait d'élever sa propre fortune sur les ruines de la liberté. L'imagination enflammée par tant de généreuses abnégations, je m'endormis la tête pleine de conjurations, de complots, d'arrestations émouvantes, de résistances désespérées, de coups de poignard et d'épée, et je m'éveillai au milieu de la nuit en proie à la plus pénible surexcitation. Afin de chasser tous ces cauchemars, j'allumai une bougie et je repris le roman de Gensu. Alors, ce fut une autre obsession. Le héros du roman, c'était mon mendiant du Pont des Arts, le marchand de petits chevalets, le mendiant gentilhomme séduit, réduit par des revers de fortune à cette situation précaire. Je le revis, ce grand vieillard, me fixant de ses yeux tristes et doux, plein de reproches, après l'ordre que je lui avais intimé de vider la place. Et de nouveau, un remords aigu me tourmenta lorsque je songeais au mal que j'avais pu faire par ma brusquerie. Cinquième journée. Ou plutôt, première nuit, raison pour laquelle on m'imposa l'adjonction d'un collègue. Les gens qui connaissent l'importance du rôle nocturne de la police comprendront mon émotion. Hélas, il était écrit que la mauvaise chance s'acharnerait sans cesse après moi. Malgré les conditions exceptionnellement favorables où nous étions placés pour observer, nous ne remarquâmes rien qui valût la peine d'être consigné par écrit. Pas un suicide, pas un guet-apens, pas une victime à protéger ou un coupable à poursuivre. Seuls, de temps à autre, quelques ombres vagues glissaient dans le brouillard, rapides et légères. Une d'elles, moins facile à effaroucher, nous ayant laissé approcher du trottoir où elle stationnait, nous reconnûmes une femme assez bien mise. Également, nous lui offrîmes nos services. car sans doute à part ailleurs elle était égarée. Mais l'inconnu répondit avec beaucoup d'aisance et de simplicité, en déclinant nos propositions. Elle habitait à deux pas d'ici, et attendait simplement une amie qui était en retard. Après quelques minutes de conversation, nous nous éloignâmes, et le silence ne fut plus troublé que par le bruit sourd de mes bottes sur le bitume. Réellement, je commençais à m'ennuyer, et je me demandais avec inquiétude si ma noble carrière était d'un bout de l'année à l'autre aussi dénuée de tout intérêt. Quant à mon compagnon, un nommé Brossard, plus philosophe, moins investigateur, et dont toutes les préoccupations se bornaient à émerger et marger sans se soucier de savoir s'il avait acquis par son travail les droits au traitement, il ne sentait pas, je le devinais, le vide immense de cette sinécure. Aussi n'essayais-je pas de lui dévoiler mon désenchantement. Il n'aurait pas compris. Comme nous passions devant le pont des Arts, je dis seulement un peu à la cantonade, répondant à ma propre pensée, « Oh, si au moins mon vieux marchand de photographie se trouvait là, nous pourrions nous amuser une minute. » Cette allusion eut le don de mettre Brossard en gaieté. « Oh, le petit chevalet !» comme nous l'appelons, fit-il en riant. « Ah, vous le connaissez ?»« Si, je le connais. Il y a 6 ans que je l'entends crier aux passants, son petit chevalet dessous. Ah oui, je le connais, le petit chevalet. Et qu'est-ce que c'est au juste, ce bonhomme-là? Oh, ça, mon cher, tu m'en demandes trop long. Peut-être un rentier en train de grossir son magot, tout en se distrayant. Peut-être un pauvre diable qui nourrit avec ça sa femme et ses enfants. Peut-être un farceur, peut-être... Enfin, j'en sais absolument rien. Je n'ai jamais demandé son état civil. Et on le tolère ainsi à débiter sa marchandise sur le trottoir? Ma foi, pour mon compte, je ne le tracasse pas. Ça me fait l'effet d'un brave homme, pas exigeant, pourvu qu'on lui laisse sa petite place. Et comme personne ne m'a donné l'ordre de l'ennuyer, je l'ai toujours laissé tranquille. Maintenant, mon vieux, ajouta-t-il, ce que je te dis là n'engage à rien pour toi. Tu en feras ce que tu voudras. Je ne répondis pas. J'étais devenu pensif. Moi qui voyais dans l'exercice de ma profession un véritable sacerdoce, je ne pus constater sans un serrement de cœur l'insouciance qu'apportait mon confrère à remplir ses fonctions. Sans me piquer d'être prophète, cette indifférence voisine du scepticisme me parut un présage de mauvais augure, annonçant une effroyable décadence morale. 6e journée. Par suite d'une légère épidémie de grippe qui sévit sur les employés de la préfecture, les hommes valides sont surchargés de travail et j'ai la faveur, malgré une nuit passée debout, de faire encore le guet l'après-midi suivant. Je ne m'en plains pas, étant de ceux que le surcroît de besogne rend infatigable. Cette circonstance d'ailleurs a été pour moi l'occasion d'une aubaine trop longtemps désirée pour que la grippe n'ait pas droit à toute ma reconnaissance. Malgré ce qu'en a dit mon collègue Brossard, le bonhomme au petit chevalet m'a trotté par la tête depuis 2 jours de façon à altérer sensiblement la sérénité de mon sang-froid. Aussi à peine étais-je en faction que j'ai trouvé toutes sortes de bonnes raisons pour commencer ma ronde par le pont du Louvre. Il était là, le petit chevalet, immuable sur l'escalier du pont des Arts, murmurant de sa voix monotone son appel ordinaire à la bourse des passants. 15 ou 20 petits chevalets de toutes dimensions, de toutes nuances, étaient rangés devant lui sur les marches, et près de lui un paquet enveloppé d'une loque noire devait contenir sans doute quelques modèles inédits destinés à vaincre les dernières hésitations des acheteurs. Jamais le vieillard drapé dans ses haillons, coiffé d'un melon sans couleur et sans fortune, repoussant par le sans-soin de toute sa personne, ne m'avait paru aussi énergique dans son maintien, aussi fier dans son attitude, aussi étrange dans sa physionomie tour à tour noble et bassement servile, à laquelle deux yeux de feu, au milieu d'une toison grise en désordre, donnaient l'apparence de quelque incarnation diabolique. Tout en surveillant cet être bizarre, j'avais bien soin de me dissimuler à ses regards. En effet, s'il m'eût reconnu après notre récente algarade, il eût été sans doute fort embarrassé, et moi autant que lui. Ce que je voulais éviter à tout prix pour l'honneur de la corporation, dont le premier privilège est d'être infaillible. À un moment donné, j'aperçus de ma cachette une dame richement vêtue qui marchandait des porte-photographies. Aussitôt, le bonhomme s'empressa, fit passer tous ses modèles sous les yeux de sa cliente, et finalement celle-ci, qui ne cherchait sans doute qu'une occasion de faire la charité, choisit un chevalet qu'elle paya généreusement. Le premier mouvement du camelot, en voyant la pièce qu'elle lui jetait, avait été de la chercher de la monnaie. Le second, un signe que lui fit la dame, fut un geste de reconnaissance. Puis lorsqu'elle eut disparu, il glissa la pièce dans sa poche avec un sourire malin. « C'est un escroc, pensais-je. Sous le prétexte de vendre un objet sans valeur, il ne poursuit qu'un but, celui de voler. » J'allais sortir de l'ombre et sévir, lorsque deux jeunes gens, venant de la cour du Louvre, s'arrêtèrent près de moi, et appuyés contre la balustrade du quai, se mirent à deviser d'un sujet qui attira et retint toute mon attention. « Regarde donc le petit chevalet, disait l'un. « Quelle drôle de tête il a aujourd'hui !»« Oui, il y a bien un mois qu'il n'est pas venu là. » »« Alors donc, je vois tous les jours depuis plus d'une semaine. »« Ah, c'est possible, au fait. »« Tu sais, il sera peut-être là pendant 8 jours, et ensuite, pendant 6 semaines, il restera invisible. »« Je ne sais que diable de métier lui a fait ici, mais je ne serais pas éloigné de croire que ça n'a rien de commun avec le commerce des petits chevalets. » « Oh, quelle idée !»« Non, je ne plaisante pas. Je suis convaincu que ce bonhomme joue ici un rôle beaucoup plus ténébreux qu'il en a l'air, et partant beaucoup plus lucratif. Ce n'est pas en vendant 3 ou 4 sous des objets qui lui demandent plusieurs heures de fabrication qu'il gagnerait sa vie. Par conséquent, s'il vient périodiquement à la même place contempler les illustres passants du Pont des Arts, ben c'est qu'il est payé pour cela. Il faut aussi de petites stations du côté de Montmartre. Je l'y ai vu quelquefois. Oh oui, pour donner le change, mais le point principal de son observatoire doit être ici. Je crois que... Moi, je crois que tu pêches par excès d'imagination et que tu vois un être extraordinaire dans un pauvre malheureux qui lutte comme il peut contre la misère. « Mon cher, je n'ai jamais parlé d'être extraordinaire. Serait tout au plus un espion ou un agent de la police de sûreté. Oui, ou quelque roi déchu, ou Fra Diavolo, ou Viblas. Peu, t'exagères tout. Et toi, tu rêves. Enfin, m'expliqueras-tu la conduite de cet individu-là, mendiant et camelot 4 jours par mois, rentier le reste du temps. Farceur, mais il travaille le reste du temps. » Quand ce ne serait qu'à la confection de ses chevalets. Pour le fait le plus simple, te voilà perdu dans un galimatias de suppositions invraisemblables. » Les deux jeunes gens s'éloignèrent et je n'entendis pas la suite de cette conversation. Mais j'en savais assez maintenant. Brusquement, comme à la lueur d'un éclair, je venais d'entrevoir la vérité. Et déjà dans ce vieux marchand qui m'intriguait si vivement, j'apercevais un grand seigneur malheureux, un espion, un agent de la police secrète, un escroc, lequel au juste, je ne le savais pas encore, peut-être tout cela à la fois. En tout cas, un personnage singulier et par conséquent dangereux, qui cachait sous ce déguisement sa véritable identité. Le rôle de la police, mon rôle à moi, était de jeter à bas ce masque et... Mais trop ému pour prendre sur le champ une détermination, je crus prudent de faire auparavant une courte promenade qui me rendrait le calme nécessaire à l'action. Ô immortel accusateur de Catilina, sois mon soutien et mon guide dans les conjectures difficiles que traverse mon inexpérience. Raffermis mon cœur, puis il anime contre toute défaillance. Depuis 3 jours, je ne me séparais plus des Catilinaires. Je les tirais de ma poche en cet instant palpitant, et pour me cuirasser contre les scrupules de sensiblerie qui auraient pu m'en empêcher d'accomplir mon devoir, je relus les 3 ou 4 passages où l'orateur lance avec le plus de véhémence le brandon de sa parole enflammée à travers les mailles inextricables de l'odieux complot. Quand j'eus achevé ma lecture, j'étais transfiguré. J'avais juste fait le tour de l'œuvre du Louvre et j'étais revenu à mon point de départ. Alors, pour ne pas laisser s'éteindre l'énergie dont j'étais animé, je piquai droit sur le marchand de chevalet et, interrompant une de ses mélopées plaintives, « Vous êtes ici contrairement aux ordres de la police, » dis-je sèchement. « J'avais pardonné une première infraction, mais puisque vous refusez de vous rendre à mes injonctions, suivez-moi. » Le vieillard laissa tomber ses bras de surprise et de découragement. « Allons, allons, dépêchons-nous, » ajoutai-je en frappant du pied avec impatience. « Si vous avez quelques explications à fournir, vous les donnerez à monsieur le commissaire. Moi, je ne peux qu'exécuter ma consigne. Vous allez me suivre au poste, ou sinon je vous emmène de force. » Un rassemblement commençait à se former autour de nous. Je l'avoue sincèrement, j'eusse été fort embarrassé si mon prisonnier eût manifesté la moindre velléité de résistance, et je crois que devant la menace d'un esclandre, j'aurais capitulé. Fort heureusement, je n'eus pas à envisager cette éventualité. Le bonhomme réunit ses chevalets, les enveloppa dans sa serviette de lustrine noire délabrée, et triste mais résigné, se disposa à m'accompagner. C'est très bizarre comme l'exercice d'une autorité à laquelle on n'est pas habitué rend tout d'abord timide, hésitant, peureux. Peur de l'exercer mal, peur de la voir s'enfuir comme elle est venue, de même que ces royautés éphémères qui surgissent et croulent sous un coup de baguette magique. Je suis sûr que pendant tout le trajet du pont au commissariat, n'était mon uniforme qui empêchait toute confusion, on aurait pris le camelot pour mon juge et moi pour le coupable. Je marchais la tête baissée, n'osant pas regarder mon prisonnier en face et le surveillant seulement du coin de l'œil. À l'arrivée, le désir de ne pas passer pour un niais me redonna du cœur, et ce fut le front haut, le geste large, le maintien assuré, que j'introduisis et remis entre les mains de qui de droit ma complaisante capture. Mon rapport fut court, mais bien senti et fortement étayé. Afin d'éviter des longueurs, je ne le rapporterai pas. Il se résumait en 2 mots qui indiquaient les motifs de l'arrestation, vagabondage et mendicité déguisée. Cette formalité remplie, je déguerpis au plus vite sous prétexte de continuer mon service et je laissai le petit chevalet et son paquet de lustrines installés dans un coin, l'un à côté de l'autre, attendant leur tour. Si j'avais cru abdiquer toute responsabilité et échapper à toute préoccupation par cette fuite précipitée, je m'étais étrangement trompé. Au contraire, plus je marchais, plus je me donnais de mouvements pour chasser les pensées qui m'obsédaient, plus celles-ci mettaient d'acharnement à me poursuivre, toujours plus pressantes, plus harcelantes. Impossible de me soustraire à leur malveillante importunité. J'étais accablé et la tête entre mes mains, je finis par me dire « Prosper, tu dois avoir fait une bêtise en arrêtant ce vieillard. » Je n'étais pas encore bien sûr, mais je doutais. C'était assez pour me tourmenter. Dès lors, j'errais à l'aventure comme un ruisseau désemparé sur une mer furieuse, ballotté sur les flots de mon imagination démontée. Hélas! Je n'en avais pas fini pourtant avec les tracas. Il était écrit que ce jour-là, toutes les calamités fondraient en même temps sur ma tête. Hélas, je n'avais pas fini pourtant avec les tracas. Il était écrit que ce jour-là, toutes les calamités fondraient en même temps sur ma tête. À 6 heures, comme je rentrais au bureau prendre les ordres de service, j'aperçus à la place où j'avais laissé le petit chevalet attendant toujours. Monsieur le commissaire, retenu ailleurs pour affaires urgentes, n'avait pas pu venir. Et quand viendrait-il maintenant? Peut-être le lendemain, dans l'après-midi. Et jusque-là, nombre de malheureux arrêtés pour des motifs insuffisants devraient subir toutes les tortures de l'indécision. Le vieillard, lui aussi, m'avait reconnu, et se levant aussitôt, s'était dirigé vers moi. Je fis bien semblant de ne l'avoir pas vu, mais il parvint à me rejoindre au moment où j'allais pénétrer dans le bureau de monsieur le secrétaire particulier. Et parlant très bas, comme s'il eût confessé un crime, « Monsieur, dit-il, c'est vous qui m'avez arrêté. Vous avez obéi aux ordres de vos chefs, et je vous en veux pas. Ce qui le prouve, c'est qu'en dépit de votre sévérité, vous m'inspirez plus d'estime et de confiance qu'aucun autre de vos collègues. Assez de confiance même pour que j'ose vous communiquer un secret et confier à votre bonne foi une mission bien délicate. » Tout cela était dit avec aisance, sans bassesse et d'un ton infiniment triste qui m'attendrit. Mon premier sentiment fut de la compassion. Mais, me rappelant le rôle que je remplissais ici, et voyant que mes deux confrères de garde suivaient les yeux avec étonnement ce conciliabule mystérieux, je répondis avec brusquerie. « Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Est-ce que maintenant les agents de police vont devenir des commissionnaires des gens qu'ils arrêteront ?» Le vieillard baissa la tête sans mot dire. « Alors, qu'est-ce que vous voulez ?» ajoutai-je plus doucement et à voix basse afin de n'être entendu que de lui. « Monsieur, fit-il, c'est si difficile à exprimer. Et puis, comme vous le dites, c'est pas à vous de faire des commissions des pauvres malheureux comme moi. « Parlez toujours, nous verrons, » dis-je, aussi intrigué qu'ému. Il hésita un instant, cherchant ses mots, puis « Voilà, » reprit-il, « ma femme et mes enfants attendent mon retour pour acheter du pain, et ce soir, sans doute, je ne rentrerai pas, alors je voulais vous prier de lui faire parvenir ce que j'ai gagné aujourd'hui. Tenez, voici. Si vous pouviez me rendre ce service, je vous serais si reconnaissant. » Et tout en parlant, il essayait de me glisser dans la main la pièce de 20 sous que j'avais vu la dame lui remettre. Je la pris et je la mis dans ma poche. « Ce sera fait, » dis-je en m'éloignant. Le mendiant courut après moi et me retint. « Mais vous ne savez pas où c'est, monsieur, » fit-il. « Oui, c'est vrai. » « Puis ce n'est pas tout. Si vous vouliez, vous comprenez, ces 25 sous, ce sera du pain pour ce soir, mais demain, il en faudra d'autres, et ma femme n'a aucun moyen d'en gagner. Si vous vouliez lui remettre aussi ce paquet qui contient mon travail des jours derniers, ma femme pourrait vendre à ma place, récolter quelques sous. » J'étais réellement plus ému que je n'aurais voulu le paraître. « C'est bien, » dis-je avec une impatience toute factice, « laissez tout cela dans un coin, je m'en occuperai. »« Quelle adresse ?»« Caroline Chamorreau, rue Bolivar, numéro, » murmura-t-il avec un geste de reconnaissance. Chapitre 4. Je suivis un long couloir à ciel ouvert, formé d'un côté par un mur de jardin, de l'autre par une palissade à claire-voie. Au fond, je trouvai une bicoque branlante à un seul étage, bâtie en bois et en torchis, aux fenêtres disjointes, dont bien des vitres étaient remplacées par des journaux jaunis, taudis immondes où pouvaient seuls grouiller la misère et le vice. Là étaient entassées, les unes sur les autres, 4 ou 5 familles nombreuses de chiffonniers ou de mendiants. Une fillette en guenille, debout sur le seuil, me dévisageait avec cette insolente gouailleuse du gamin de Paris. Je lui demandai Caroline Chamorro. Par ici, fit-elle sans se déranger et en m'indiquant du geste une porte vitrée à gauche dans le couloir. Je frappai un coup sec et j'entrai dans l'unique chambre qui servait de gîte à toute la famille Chamorro. La mère, jeune encore, 40 ans à peine, mais jaune, maigre, vêtue de haillons. Deux fillettes de 8 à 10 ans et un garçonnet d'environ 5 ans. Tout cela sordide, mal peigné, vautré dans les ordures, parmi des paillasses éventrées, des chaises boiteuses et dépareillées. Dans le coin, un petit poêle dont le tuyau sortait par la fenêtre à travers un carreau de tôle, et au-dessus duquel, pendus à une tablette de bois qui remplaçait celle de la cheminée absente, quelques linges séchaient. Sur les murs, dont le badigeon à la chaux disparaissait sous les dégradations, rien, pas un emblème, pas une image religieuse, comique ou obscène, comme on en trouve dans presque tous les petits ménages d'ouvriers parisiens. C'était le dénuement absolu, complet, contre lequel on avait lutté longtemps, sans doute en faisant tous les sacrifices, en épuisant tous les expédients, et qui maintenant, après avoir dévoré jusqu'au dernier meuble, écrasait ses malheureuses victimes, plus implacables et plus farouches que jamais. J'étais peu familiarisé, je l'avoue, avec le spectacle de la misère, et pour apprécier celle-ci, les termes de comparaison me manquaient. Cependant, nul ne pouvait me semble-t-il, être plus épouvantable, et dès le premier coup d'œil, j'avais eu le cœur serré par un sentiment d'immense pitié. Une bougie posée sur le poêle, éteint, éclairait cette scène et la rendait encore plus lugubre. Mon apparition fit l'effet d'un coup de foudre, et tous ses yeux, cerclés de bistres brillantes de fièvre, se tournèrent vers moi avec une expression d'étonnement mêlée d'angoisse. Mon costume, oh, j'avais eu soin de me mettre en bourgeois, n'était pas ce qu'ils avaient coutume de voir chez eux, et ma vue les effrayait. Les gamins se sauvèrent en se bousculant dans un coin, tandis que la mère, plus hardie, mais flairant un piège, se plantait devant moi avec un geste d'indécision. « Ne craignez rien, » dis-je aussitôt d'une voix que la compassion rendait douce, « je vous apporte des nouvelles de votre mari. » « Oh, mon Dieu, un malheur !» s'écria la jeune femme. « Non, non, détrompez-vous, il est en parfaite santé. »« Mais alors pourquoi ne vient-il pas lui-même ?»« Il est retenu ailleurs en ce moment et m'a prié de vous remettre en son nom ses marchandises et son gain de la journée. Voici. » Elle me regarda de nouveau avec défiance et me dit un merci inintelligible. « Enfin, monsieur, » reprit-elle, « puisque vous l'avez vu, pourquoi ne vient-il pas? Dites, je vous en prie. » J'étais très embarrassé. À l'attendrissement qui m'avait gagné sur le seuil de cette chambre, se mêlait maintenant un peu de confusion personnelle. Si je n'étais pour rien dans l'affreuse misère que j'avais sous les yeux, n'allais-je pas contribuer par ma maladresse à la rendre plus lamentable encore? J'avais honte d'avouer ma bévue, et pour me donner le change. Mais dans votre inquiétude, il y a une arrière-pensée, dis-je. Que craignez-vous donc pour votre mari? La jeune femme lança un coup d'œil soupçonneux et garda le silence. Tiens, pensai-je en voyant cette attitude, ma capture n'est peut-être pas aussi mauvaise que je le croyais. Toutefois, je ne laissais rien paraître de doute qui venait de naître dans mon esprit, et je continuais. « Vous savez pourquoi je vous remets ce paquet? Vous pourrez, à la place et en attendant le retour de votre mari, vendre quelques chevalets. La pièce de 20 sous est pour ce soir, si vous en avez besoin. » La mère fit un geste de découragement. « Ah! Si nous en avions besoin, monsieur, mais nous sommes habitués à attendre, allez. » Mais pourquoi ne travaillez-vous pas de votre côté? Dis-je à tout hasard, cherchant à provoquer des confidences. Elle me fixa de son regard atone. Je ne puis plus, fit-elle. Ah, vous êtes malade? Non, je suis découragée. J'étais vivement intéressé. J'essayais de la faire causer et peu à peu, encouragée par ma bienveillance, elle se fit plus confiante. Elle me raconta comment ils s'étaient mariés, elle toute jeune, lui déjà âgé, mais bon ouvrier, et gagnant de fortes journées dans la menuiserie en province. Comment ils avaient ensuite quitté la province pour Paris, où les longs chômages avaient vite épuisé leurs premières ressources. Après, d'autres enfants étaient venus augmenter les charges de la famille, puis la maladie, les convalescences, un désir et la misère noire. Oh, ils avaient lutté longtemps, ils avaient usé de tous les moyens. Ils ne manquaient de courage ni l'un ni l'autre, mais les événements avaient été plus forts qu'eux. Lui, vieilli, sans travail, rebuté partout, essayait encore de gagner quelque chose en confectionnant ses petits chevalets, mais bien souvent cette source était insuffisante et le pain manquait à la maison. Mais vous, répétai-je, vous ne pourriez pas aider votre mari? Elle poussa un soupir et courba la tête. Je l'ai fait jadis, dit-elle enfin, au commencement, puis, quand j'ai vu que mes efforts étaient trop mal récompensés, quand la misère a été trop écrasante pour que mon intervention fût efficace, j'ai abandonné la lutte. C'était lâche, je le confesse, mais on ne raisonne pas contre le désespoir et j'étais désespéré. Ah, monsieur, si je n'avais pas eu mes enfants. C'était bien banal, ce récit. C'était l'histoire de toutes les familles d'artisans éprouvées par l'adversité. Malgré cela, j'eus une minute d'attendrissement. Mais presque aussitôt, un soupçon me traversa l'esprit et arrêta mon élan. Ce désespoir n'était-il pas trop théâtral pour être sincère? Ces confidences si facilement débitées à un inconnu, n'étaient-elles pas tout simplement un piège pour surprendre ma bonne foi et délier les cordons de ma bourse? Les mendiants à Paris ont tant de ruses dans leurs sacs. La voix de Caroline Chamorro interrompit mes réflexions. Je vous en prie, monsieur, dites-moi, si vous le savez, où est mon mari? Cette question me ramena à la réalité. Certainement, je le sais, répondis-je sans réfléchir. Je connais sa retraite. Il est très bien, croyez-moi, très bien, et d'ailleurs son absence ne saurait durer. L'explication à donner me mettait dans un cruel embarras. Continuez, je vous en conjure, fit-elle. Bien voilà, repris-je, je suis gardien de la paix. À ces mots, les enfants, qui déjà apprivoisés commençaient à s'approcher, s'envolèrent de nouveau comme une bande de moineaux effarouchés par un oiseau de proie. Et la mère elle-même recula un peu. Laissez donc, dis-je, je ne viens pas ici pour exercer mon métier, je viens en ami. Donc, oui, je suis gardien de la paix, et cet après-midi, pour obéir aux ordres de mes chefs, j'ai dû arrêter votre mari. Mon mari arrêté? Et pourquoi? Oh, mais toutes les infortunes nous accablent à la fois, tout se lit contre nous. Les enfants pleuraient, la mère criait, vociférait, lançait des imprécations contre le ciel et contre la société. J'étais penaud d'avoir déchaîné tant de vacarme. Le premier, pourtant, je repris mon sang-froid et je m'expliquai. Mais ce n'est rien du tout, cette arrestation. C'est une simple formalité que le règlement m'obligeait à remplir. Après un premier interrogatoire, votre mari sera sans doute relaxé, aucun doute. Et vous le verrez ce soir, peut-être, demain ou plus tard. C'est uniquement par mesure de précaution qu'il m'a chargé de cette commission. Les pleurs et les cris se calmèrent, et j'en profitai pour me retirer, non sans avoir versé, aussi discrètement que possible, le contenu de mon porte-monnaie sur la tablechette cheminée. Je rentrais chez moi, satisfait de ma mission, mais soucieux. J'avais laissé dans ce taudis une des plus remarquables romanesques illusions. Au lieu de l'infortuné extraordinaire et ou du cynisme criminel que j'espérais trouver dans la vie du petit chevalet, j'étais en face d'une réalité aussi plate que possible, enfin d'une aventure vulgaire comme on en rencontre tous les jours à Paris. Cette déception m'humilia et, l'avouerai-je, mon rôle de policier me parut perdre à ce moment les trois quarts de son prestige. Je m'étais trompé, moi, gardien de la paix du premier arrondissement de la ville Lumière. Oui, je m'étais trompé. Comme le premier magistrat, non seulement j'avais cru voir un grand seigneur déchu dans un ébéniste sans travail, mais j'avais pris, chose plus grave, un honnête homme pour une canaille. Enfin, tout est bien qui finit bien. L'erreur réparée, tout reprendrait son cours et je n'y penserai plus. Dernière journée. J'apprends aujourd'hui à vérifier l'exactitude de l'axiome passé plus haut, à savoir que la police est infaillible. Bien qu'il rejaillisse sur moi à quelque honneur, je ne puis m'empêcher de trouver que l'application trop rigoureuse de ce principe ouvre parfois la porte à de criantes injustices. Victor Clamoreau, à l'interroger enfin par le commissaire, a été maintenu en état d'arrestation, malgré tous les efforts que j'ai tentés pour le faire remettre en liberté. Vagabondage et mendicité déguisée. Ces deux termes de mon rapport ont beaucoup plu au commissaire, qui a parlé tout de suite de récompenser mon énergie. Vagabondage et mendicité déguisée. Sous deux épithètes pareilles, a-t-il dit, il ne peut se dissimuler qu'un malhonnête homme. C'est un inculpé intéressant qui mérite un examen sérieux. J'ai eu beau dire que je m'étais trompé, que la qualification de vagabond était impropre, puisque le sieur Chamorro est domicilié rue Bolivar, numéro 1, pas plus que celle de mendicité déguisée, puisque le dit sieur Chamorro vit du produit de son travail. Eh bien, le commissaire n'a rien voulu entendre. Bonne prise, ça, bonne prise, répétait-il. Mes compliments, le rat. Devant cet incompréhensible entêtement, je me suis retiré très froissé et décidé à frapper un grand coup. Rentré chez moi, j'ai relu 10 pages des Catilinaires pour me donner le temps de la réflexion, mais ma résolution était appuyée sans doute sur de solides raisons, car elle a résisté intacte à cette épreuve. J'ai donc pris une feuille de papier ministre et, séance tenante, j'ai rédigé ma demande de démission à monsieur le préfet de police, en développant longuement les motifs. 15 jours après, le coup que j'avais voulu frapper n'a pas porté. Je viens d'apprendre en même temps que ma démission était acceptée et que le sieur Victor Chamorro était condamné à 8 jours de prison pour vagabondage, etc. Avec les 15 jours de prévention, ça lui fera 3 semaines de privation de liberté. Que serait devenue sa famille depuis ce temps-là si je ne l'avais pas soutenue de mes propres deniers? Ainsi marche la justice humaine, souvent boiteuse, mais plus souvent aveugle. Il est juste de reconnaître que j'ai beaucoup contribué cette fois à lui mettre le bandeau sur les yeux. À quelque chose, malheur est bon. Le petit chevalet aura été l'instrument d'une rénovation complète dans mes idées. Mes ambitions ont changé de but, et puisque je n'ai pas trouvé dans la police, que j'avais considéré longtemps comme le seul refuge de l'immanente justice, la satisfaction de mes ardentes aspirations vers le bien, je vais la chercher dans le commerce. Mon père s'est réconcilié avec moi et consent de nouveau à voir en moi le fils et successeur de son importante maison du Pré Saint-Gervais. Le père Chamorro est devenu mon ami. Je lui achète souvent des chevalets, car j'occupe mes loisirs à faire de la photographie. me terminerai probablement mes jours dans la peau d'un honnête commerçant. Mais je n'ose rien prévoir. Je reste, en dépit de la leçon, un tout petit peu fataliste. Prosper le rat.